Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quel régal de vous retrouver pour deux heures d'histoire décomplexée, joyeuse et surtout en tandem. En effet, Walt Disney avait Tic et Tac, Europe 1 désormais, Bern et Noël. Ça a beau être tous les jours, c'est chaque fois aussi magique de vous retrouver, Stéphane.
Ouais, pour moi aussi. Bonjour Mathieu. Magie réciproque, même si avant de signer, j'aimerais bien savoir qui fait tic, qui fait tac.
Je vous dirai.
En tout cas, on est parti pour deux heures d'histoire décontractée, mais riche. Avec non pas trois personnages comme d'habitude, non, mais exceptionnellement 47. Alors, vous me direz pourquoi cette soudaine surenchère? Eh bien, parce que notre thème du jour, c'est une famille en or.
Oui, les psychologues affirment désormais que toutes les familles sont dysfonctionnelles, peut-être, mais il y a quand même des nuances. Celles dont on va vous parler aujourd'hui sont particulièrement gratinées. Stéphane vous racontera les Borgia, puis les Kennedy.
Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'une famille encore bien vivante et toujours sous les feux des projecteurs, sans d'ailleurs que personne n'ait encore su expliquer pourquoi. Les Kardashians.
Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on parle d'eux, à part simplement être eux? C'est un mystère que je tenterai d'éclaircir tout à l'heure.
Vous l'avez compris, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on se balade dans l'histoire sans GPS, au gré de nos envies, et aussi à notre manière, en famille. Et quelle famille! Elle l'a tranquillement installée sur le canapé, elle passe des heures à compulser les albums de famille de l'histoire pour trouver et surtout nous révéler les petits secrets des grands de ce monde. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Et bonjour messieurs. Alors, petite question aujourd'hui. Je vais vous emmener sous la Troisième République. Et sous la Troisième République, dans les programmes des visites officielles, pour les dignitaires politiques, étrangers ou français, on prévoyait toujours une visite au président du Sénat. Est-ce que vous savez ce qu'on entendait par là, la visite au président du
C'était
Sénat?
C'était pas juste une visite au président du Sénat?
Pas du tout, c'était la visite d'une maison close,
mais
pas n'importe laquelle, la plus réputée, la plus sélecte et la plus luxueuse de l'époque, le Chabanais. La chaise, le trône d'amour, la chaise de volupté d'Édouard VII, nous allons en parler tout à l'heure.
Très bien, je pense que monsieur Larcher, le président du Sénat, va apprécier chaque fois qu'on dit on va chez le président du Sénat.
Ah bah maintenant, on en parlera différemment. J'irai plus souvent au Sénat.
Ou aux chandelles. Alors bon, pendant ce temps-là, Papa Pouls fait la popote.
Papa Pouls.
Ou boit un petit coup, ça dépend des fois. Olivier Pouls, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Eh ben, on va boire un coup, justement. C'est peut-être bientôt l'heure de l'apéro, non?
Oui, on peut, avec vous, il n'y a pas vraiment d'heure.
Qu'est-ce que vous diriez d'un petit spritz, les amis?
Spritz, comme dit Stéphane.
Ben, vous saurez tout sur,
spritz.
Sur son histoire. Et puis sur sa recette.
Oui. C'est italien ou allemand?
Mais attendez,
attendez.
Non, je crois que c'est
teasing.
Teasing.
Ah, oui. Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre, figurez-vous.
C'est pas croate, non? C'est pas yougoslave.
C'est pas croate, non?
Bon, mais calme-vous, on verra tout à l'heure, il faudra rester avec nous pour savoir d'où vient le spritz.
Et le petit dernier passe ses journées enfermé à se questionner sur l'origine de tous les objets.
L'adolescence.
On vient juste de le libérer. Bonjour David Castillo-Lopez.
Pas du tout enfermé.
Bonjour Stéphane. Alors, oui, hier je vous ai parlé du bikini. Et bien aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un objet connexe, on pourrait dire. J'adore le mot connexe, voilà. Et cet objet connexe, c'est l'épilateur électrique. Et vous allez voir, on va voyager.
C'est vieux l'épilateur électrique? Vous ne pouvez pas vraiment le révéler. Une émission au poil en tout cas, qui ne serait pas tout à fait complète sans... Stéphane, vous l'oubliez à dessein, mais nos auditeurs, eux, ne l'oublient
je
pas.
Je n'oublie rien.
Rendez-vous tout à l'heure pour le quiz, l'occasion pour tous les amateurs d'histoire de ce pays de se mesurer à la référence qu'est censé incarner Stéphane Bern.
Mais j'ai beaucoup gagné
je
ces derniers temps.
Je dis bien censé. Historiquement Vôtre, c'est parti.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Avant de plonger dans les familles en or de l'histoire, voici le moment qui vous permet de découvrir les origines d'un objet du quotidien. Origines souvent insoupçonnées. Aujourd'hui, David, vous nous racontez l'histoire fascinante de l'épilateur.
Oui, je sens une petite ironie peut-être dans la fascination.
Jamais avec ces femmes.
Jamais. Moi, je suis assez heureux de vivre dans notre époque, hein, parce que je veux dire, on a quand même assez bien domestiqué la douleur. Quand on accouche, on a la péridurale. Quand on a des calculs rénaux, il y a l'anesthésie générale. En plus, plus personne nous oblige à aller faire la guerre si on n'a pas envie. Donc, on s'en prend plus des coups de baïonnette dans les yeux. Mais quand même, il reste une douleur qu'on s'inflige à nous-mêmes. Et cette douleur, c'est celle de l'épilation. Pourquoi on s'épile ? Eh bien parce qu'on s'imagine...
Vous épilez beaucoup, vous. Oui. Hein.
Pas énormément, oui. Peut-être pas assez. On s'épile parce qu'on s'imagine, et on n'a pas forcément tort, que la majorité des gens préfèrent, d'un point de vue érotique, une pilosité faible ou modérée une pilosité abondante. On se l'imagine, en tout cas. Alors, on s'épile et on crie et on pleure et on est triste, mais on se dit que ça vaut la peine parce qu'on va pécho. Mais évidemment, tous les gens ne sont pas égaux devant l'épilation. Déjà parce qu'il y a une grande diversité génétique injuste dans le degré de pilosité.
Stéphane,
vous l'avez noté sur
un poil, j'ai l'impression.
Si, j'en ai sur le torse, mais sinon...
Vous épilez le torse, Stéphane Bern?
Jamais, je ne me suis jamais épilé.
Jamais. Vous n'y avez jamais songé?
Ben non, pourquoi? Ouais, mais les hommes ne s'épilent pas.
Bon, faut que... moi, vous avez beaucoup d'hommes s'épilent.
Ah oui?
Je vous raconterai.
Oui, c'est vrai que ça peut arriver quand même. Mais y a, ce que je veux dire, c'est une grande
femme surtout qui s'épile.
On a compris, si c'est pas les hommes, c'est forcément les femmes.
Non, parce que maintenant ça peut être
ça. Ça peut être
étrange. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé aux États-Unis ou au Canada. Maintenant, il faut faire très attention.
Je ne veux pas, il y a le Covid, Stéphane.
Il y a it ou she, they.
Oui, c'est vrai, il y a there.
Excusez-moi, je suis peu moderne.
Donc je disais...
Que disiez-vous, finalement,
c'est plus, on a oublié. Tous les gens ne sont pas égaux devant l'épilation, déjà parce qu'il y a une grande diversité génétique injuste dans le degré de pilosité, mais surtout parce que les pauvres ne peuvent pas s'épiler comme les riches. Quand vous êtes riche, vous confiez vos poils à une personne diplômée. Spécialiste des poils qui vous épile sous une lumière douce avec un disque qui passe des bruits de forêt. Mais quand vous êtes pauvre, eh ben vous devez vous épiler tout seul. Et l'une des principales façons de s'épiler tout seul, eh bien, c'est l'épilateur électrique. Alors, l'épilateur électrique, ça fonctionne selon un principe simple. Il y a des lames en métal ou des ressorts qui emprisonnent le poil, puis qui tirent de tout dessus.
Terrible,
et puis ça l'arrache. Mais alors, la question qui me brûlait, et dont je sens qu'elle brûle aussi les auditeurs, c'est « Mais qui c'est qui a inventé l'épilateur électrique ?» Eh bien, figurez-vous que pour le savoir, je suis allé en Israël. Voilà. La plupart des journalistes, ils vont dans la région pour interviewer le Hamas. Moi, je viens pour interviewer l'inventeur de l'épilateur électrique. Alors, l'inventeur, il s'appelle Yair Dar. Il a plus de 70 ans maintenant. Et il est frappant visuellement parce qu'il a un bandeau sur l'œil.
C'est Moshe Dayan.
Voilà, comme Albator et comme Moshe Dayan. Et puis, bien sûr, il parle hébreu. Et moi, quand on me parle hébreu, j'ai toujours l'impression qu'on n'est pas là pour déconner.
Ani Yair Dar ve amamti shel ha'epilady.
Ouais, sérieux, voyez, bon, ça c'est la phrase que je fais dire à tous les inventeurs, hein. Je m'appelle Yair Dar et c'est moi qui ai inventé l'Epilady, qui est la marque du premier épilateur électrique. Yair, il était ingénieur et c'était aussi un inventeur, c'est-à-dire un type qui réfléchit toute la journée à des trucs pour améliorer la vie des gens. Et en matière d'épilation, avant, les gens, soit ils se rasaient et ça repoussait, soit ils s'épilaient à la cire, mais logistiquement, c'était problématique. Alors pendant 10 ans, Yair, il bosse, il fabrique 15 prototypes différents que j'ai tous vus, hein. C'est assez joli, il y en a vraiment qui ressemblent à des fraiseuses de chantier, c'est très joli à voir. Il les teste lui-même sur ses jambes et puis finalement, il arrive à un modèle qui marche. Et en 1986, le premier épilateur électrique de l'histoire du monde est commercialisé sous le nom d'Epilady. J'ai retrouvé une des premières pubs pour l'Epilady. À l'image, on voit les mains d'un homme en gros plan qui caresse les jambes d'une femme et ils discutent. Je vais vous la passer. Attention, il y a du saxophone hein, qui, dans les années 80, était la bande-son obligatoire de tout projet érotique.
Your legs, yes. They feel different.
You noticed.
They feel silky,
yes.
Soft.
Alors, je vous propose de traduire le dialogue,
Mathieu. C'était avant MeToo, tout ça. Oui, alors oui.
Oui, c'est un peu sexiste. Vous voulez bien faire la fille?
Un poil, si j'ose dire. Oui, je veux bien faire la fille.
Alors, on va traduire ce qu'on vient
d'entendre. Je vous verrai tous, mais déjà arrivé. Bon, pardon.
Vos jambes, Mathieu.
Oui.
Elles semblent différentes.
Vous avez remarqué?
On dirait de la soie.
Oui.
Elles sont douces.
C'est vrai.
Mais comment avez-vous fait? Attends, ça s'est super bien passé, on a super
ça
bien traduit.
Ça s'est bien passé, on s'y croirait, mais limite, ça m'a quand même fait des petites sueurs froides.
Ah oui?
Parce que m'imaginer avec David en train de me draguer, en train de toucher mes jambes.
Il est quand même plus poilu que vous encore.
Il est encore plus poilu que vous.
Alors que déjà, ça a l'air déjà pas mal.
Oui, je pense que un peu plus. Alors, le contact entre moi et Yair, il est bien passé, si bien qu'à la fin de notre entretien, il m'a offert un exemplaire original d'Epilady que j'ai amené ici.
Ah, c'est ça.
Il est branché. Et Mathieu, en hommage à cette belle technologie qui permet de pécho, je vous propose de l'essayer sur vous immédiatement.
Absolument pas.
Regardez,
ça fait trop mal.
Si, ça fait un super. Je l'allume. Approchez votre main.
Ah non.
C'est horrible.
Regardez
tout
petit peu.
Proche ma main.
Voilà. Vous êtes super.
Merci. Ma compagne essaye toujours de m'épiler. Elle me dit je veux que tu ressentes ce que ça fait parce que ça fait vraiment mal dans certains endroits. Donc je veux que tu essayes. Et à chaque fois je dis non. Et ce que je refuse à ma compagne, j'ai accepté pour cette émission. David Castello-Lopez, c'était votre dernière chronique, mais c'était une très très bonne chronique, fort intéressante. Merci de nous avoir fait découvrir les origines de l'épilateur électrique.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quoi de plus beau?
Quoi
Quoi de plus important que la famille, Mathieu ?
Rien, Stéphane.
Ah, vous connaissez les Borgia ?
Non, Stéphane.
Alors, préparez-vous peut-être à changer d'avis sur la famille.
Historiquement vôtre. Le récit.
Avec les Borgia, Mathieu, on entre dans le monde des intrigues de la Renaissance italienne au XVe siècle. La légende des Borgia, c'est le sang, le sexe, le meurtre et la perversion. Tout le monde les voit comme une bande de psychopathes avides de pouvoir et d'or, plus pervers et plus cinglés les uns que les autres. Il y a, comme souvent, du vrai et du faux, mais le premier constat, c'est que l'ascension des Borgia n'était pas gagnée d'avance. Après tout, ce sont des étrangers en Italie, ce sont des Espagnols venus d'Aragon. Des gens importants, certes, mais qui n'ont a priori pas de quoi menacer la puissance des vieilles familles italiennes. Le premier à se faire un nom à Rome, c'est Alfonso Borgia, un malin. Diplomate, puis cardinal, il sait jouer des luttes de pouvoir et des manigances qui se tissent dans les couloirs du Vatican entre les familles de Venise, de Florence et de Milan. Parce qu'avoir un pape dans la famille, ça peut toujours servir. Au-delà du prestige religieux, ça revient à contrôler Rome et les états pontificaux, donc une puissance politique et militaire tout à fait respectable. Le génie d'Alfonso Borgia, c'est de transformer sa faiblesse en avantage. C'est parce qu'il ne semble pas dangereux que les cardinaux en font un pape de compromis en 1455 sous le nom de Calixte III. Il ne va rester que 3 ans sur le siège de Saint-Pierre, mais ça lui suffit largement pour faire ce que font beaucoup de papes de son époque. Il place ses fidèles au poste clé d'une part et s'enrichit autant que possible d'autre part. J'irais jusqu'à dire qu'il s'en met plein les fouilles, Mathieu.
Je vous trouve bien peu respectueux du Saint-Père, Stéphane. Ça ne vous ressemble pas.
Mais voyez-vous, mon cher Mathieu, c'est plus ou moins dans les mœurs de l'époque. Celui qui va vraiment bousculer la bonne société italienne, c'est Rodrigo Borgia, le neveu d'Alfonso, bombardé cardinal à 25 ans par son oncle. D'abord, c'est un jouisseur qui aime les belles choses, le luxe, le vin et la fête. Oh, c'est aussi un débauché dont on ne compte plus les maîtresses. Bon, ça encore. Mais il a des enfants avec.
Ce sont des choses qui arrivent, Stéphane.
C'est vrai. Il n'est pas le seul homme d'église à avoir une vie privée animée. Beaucoup ont quelques enfants cachés ici ou là. En revanche, Rodrigo Borgia les reconnaît publiquement. 2 de ses enfants vont rester dans les mémoires. César et Lucrèce Borgia. En 1492, vous savez, l'année où Christophe Colomb atteint le Nouveau Monde.
Oui, ça fait partie de la seule date que je connais, avec 1515 Marie.
Leur père est élu pape sous le nom d'Alexandre VI. Et grâce à César et à Lucrèce, Rodrigo Borgia a les moyens de ses ambitions. Son rêve, c'est de prendre le contrôle d'une Italie déchirée par les luttes d'influence, souvent armée entre les grandes cités comme Venise ou Florence. Pour y parvenir, tout devient un outil. Ses amis, sa famille, ses propres enfants, chaque décision, chaque poste accordé, chaque récompense cache un but. César Borgia, par exemple, se retrouve évêque à 15 ans, archevêque à 17, cardinal à 18. Et quand il quitte la robe, c'est pour prendre la tête des armées pontificales. Ce sera un chef de guerre impitoyable qui va combattre sur tous les champs de bataille d'Europe ou presque pour aider son père, Rodrigo Borgia. D'autant que, comme lui, César est bien décidé à atteindre ses objectifs par tous les moyens, y compris les plus bas et les plus brutaux. On le soupçonne ainsi d'avoir fait assassiner son frère cadet, Juan, ou Giovanni Borgia, dont on retrouve le cadavre dans le Tibre, percé d'une 20aine de coups de poignard, ce qui est un moyen comme un autre de devenir le fils préféré de son père.
Mais c'est pire que la mafia, cette famille, Stéphane. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre, on dirait.
Eh bien, si, Mathieu.
Ah.
Et le plus curieux, c'est que le salut viendra peut-être de celle qui a la pire réputation de la famille. Dans la famille Borgia, je demande la sœur, Lucrèce.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous vous racontons cet après-midi le destin de familles formidables de l'histoire. Famille formidable qui se dit, si j'ai bien suivi, Famiglia Borgia en italien. Et justement, Stéphane, vous nous avez laissé avec Lucrèce, mais heureusement pas tout seul. À vous croire, ce serait la seule capable de rattraper le niveau de la famille Borgia.
Mathieu, on a tout dit à son sujet. On l'a traité de tous les noms, de dépravée, de nymphomane, d'empoisonneuse. On a même raconté qu'elle avait brisé le tabou de l'inceste, couché avec son frère César et même son père, le pape Alexandre VI.
J'ai envie de dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Non trovaro fumatoro senza fuego, comme on dit à Modène.
Il n'y a surtout aucune source historique solide pour le prouver. en dehors des méchancetés colportées par les ennemis de sa famille. César, le frère, et Rodrigo Borgia, le père, avaient une affection indéniable pour elle, mais ça ne les a jamais empêchés d'utiliser Lucrèce pour arriver à leur fin sans lui demander son avis. Et elle leur a été très utile, d'abord parce qu'elle était intelligente, cultivée et très belle, splendide même. À 13 ans, Lucrèce est mariée de force avec l'un des héritiers de la famille la plus puissante de Milan, les Sforza. Mais voilà, les alliances, ça se renverse et moins d'un an plus tard, le pape décide de récupérer Lucrèce, ce qui est assez facile. Quand on est pape, il suffit de prétendre que le mari de sa fille est impuissant, que Lucrèce est toujours vierge et que le mariage n'a pas été consommé pour obtenir un divorce. Rapidement, on la marie une deuxième fois. Cette fois, c'est à Alphonse d'Aragon. Et ce mariage est heureux. Lucrèce aime Alphonse, Alphonse aime Lucrèce. Mais nouveau renversement diplomatique. Rodrigo et César veulent à nouveau récupérer Lucrèce.
Ça va être compliqué de prétendre qu'elle est encore vierge après deux mariages, Stéphane.
Bah, surtout qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux.
Ah.
Qu'à cela ne tienne, Alphonse échappe par miracle à un premier attentat dans les rues de Rome. Mais il finit par se faire étrangler dans son lit par les spadassins. Vous savez, les hommes de main envoyés par son beau-frère, César Borgia.
C'est toujours sympathique, cette famille.
Un an plus tard, en 1501, Lucrèce est déjà remariée avec un autre Alphonse, le duc de Ferrare. C'est là, au nord-est de l'Italie, qu'elle peut enfin mener une vie apaisée, loin des intrigues du Vatican, en mécène et protectrice des arts. En 1519, un accouchement difficile lui coûte la vie et Lucrèce Borgia meurt à 39 ans. Lucrèce a eu le temps de voir disparaître son père, mort en 1503, et son frère, tué dans un énième combat en 1507. Sa légende noire ne s'imposera que bien plus tard, avec la pièce que Victor Hugo, en 1833, consacre à Lucrèce et aux Borgia en les qualifiant de famille de démons. Une famille de démons qui a, depuis, inspiré les créateurs de séries télé.
Europe 1, historiquement vôtre.
Afin de connaître encore un petit peu mieux cette famille formidable des Borgia, on accueille Jean-Yves Borioux. Bonjour.
Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de langue et littérature latine à l'Université de Nantes, spécialiste de la Rome renaissante, auteur des Borgia, la pourpre et le sang aux éditions Perrin. Alors, revenons sur cette mauvaise réputation des Borgia, je l'ai dit, elle va se poursuivre bien au-delà de leur mort à travers les écrits de grands auteurs comme Alexandre Dumas ou Victor Hugo. Est-ce que vous pensez, Jean-Yves, que la légende a dépassé la réalité ?
Alors, elle a très nettement dépassé la réalité. Hein. Mais en fait, l'origine de cette légende noire, elle est à rechercher dès finalement l'époque même des Borgia. Il y a eu ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire l'épisode où le premier mari de Lucrèce a dû reconnaître son impuissance. Alors tout est parti de là. Hein.
Il était impuissant ou pas ? Ou c'était une légende ?
Ah non, c'était un débauché.
Ah, oui.
C'était un débauché et toute l'Europe le savait, mais il a été horriblement vexé. Alors il a fait évidemment savoir dans toutes les cours d'Europe par des courriers récurrents qu'en fait le pape avait voulu récupérer sa fille pour lui-même. Hein. Et tout est parti de là. Et ensuite, bon, la légende a gagné en importance. Il ne faut pas oublier quand même que Savonarole a dit pique-pendre du pape. Les protestants ont attaqué Alexandre VI à qui mieux, etc., etc. Tout est parti de là. Et ensuite, ça a pris une dimension absolument incroyable. On a fait carrément d'Alexandre VI un personnage diabolique hein, qui se serait adressé carrément justement au diable en mourant, en lui demandant dans quelques moments supplémentaires de vie, vous voyez, tout est parti de là et ensuite, bien sûr, ça a dépassé et de loin les dimensions de cette pauvre famille Borgia.
Alors ne bougez pas Jean-Yves Borioux, pas plus que vous chers auditeurs, on va continuer de parler de nos familles déglingos de l'histoire et des Borgia en particulier avec notre invité sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, on va vous donner envie de fonder une famille nombreuse et très soudée, puisqu'on parle des Borgia. On est toujours avec Jean-Yves Borioux, professeur émérite de langue et de littérature latine à l'Université de Nantes, spécialiste de la Rome renaissante, auteur des Borgia, La pourpre et le sang aux éditions Perrin. Jean-Yves Borioux, est-ce qu'on peut dire que les Borgia, c'est un peu les Lannister dans Game of Thrones, mais en pire ?
Alors, c'est un parallèle intéressant. Mais la différence qu'il y a, c'est que les Lannister, eux, sont finalement propriétaires de vastes terres de l'Ouest. Hein, alors que les malheureux Borgia, eux, n'ont pas de fief. Hein, comme le disait tout à l'heure Stéphane, en fait, c'est ça qui leur manque. Parce que les familles auxquelles ils sont opposés, ces Borgia à Rome, ce sont les Orsini, les Colonna, qui tous disposent et de fiefs importants, et de forteresses, et de troupes armées. Et les Borgia sont assez démunis quand ils arrivent dans cette Rome terrible, hein, qui est un véritable coupe-gorge hein, à la Renaissance. Et évidemment, on peut mettre en parallèle hein, tout ce qui s'est passé chez les Lannister et tout ce qui s'est passé chez les Borgia. Mais en fait, les Lannister sont une très 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 vieille dynastie, alors que les Borgia sont, comme on le disait, des parvenus.
Mais on parlait aussi de Lucrèce Borgia. Elle a été calomniée, évidemment. Il y a la pièce de Victor Hugo. Oui. Elle souffre d'une très triste réputation. Comment faire pour la réhabiliter? Parce qu'au fond, elle était l'enjeu des négociations diplomatiques de son frère et de son père. On l'a traitée de putain du Vatican. Pour moi, c'est plutôt une grande princesse de la Renaissance italienne.
Oui, effectivement. C'est une grande princesse de la Renaissance italienne. C'est l'équivalent d'Isabelle d'Este, Béatrice d'Este. Seulement, la différence, c'est que là, les Borgia, père et fils, l'ont utilisé au gré des différentes alliances. Hein, vous l'avez dit, dans un premier temps, c'est l'alliance de Milan, mais très vite, bon, ça paraît comme quelque chose d'assez caduc, hein, l'alliance milanaise. Ensuite, on passe à l'alliance napolitaine, on se rend compte que les Napolitains, on ne peut pas compter sur eux. Donc, il faut éliminer le mari qui ne sert plus à rien, et pour ensuite en faire vraiment cette grande princesse de la Renaissance, qu'elle sera à Ferrare, avec tout le prestige de Ferrare qui rejaillit justement sur cette pauvre famille des Borgia, devenue Borgia.
Et alors, il y a une chose, un personnage dont on doit parler quand même d'un mot, c'est César Borgia. On dit que c'est, et vous le racontez dans votre livre, c'est le modèle, c'est pas le prince de Machiavel, mais il a servi de modèle à Machiavel.
Ah oui, ça c'est indéniable. Ce que Machiavel a retenu, c'est que c'était quelqu'un qui faisait ce qu'il disait et qu'il disait ce qu'il faisait, vous voyez. Et Machiavel reproche au prince de la Renaissance, aux autres princes de la Renaissance, d'être des lettrés, mais des gens incapables de faire la guerre et tout. Alors que César, c'est un adepte de la guerre éclair. Hein. Il s'empare de la ville d'Urbino en trouvant une astuce pour faire en sorte que l'armée du duc d'Urbino quitte la ville. Et il s'en empare ainsi, sans coup férir, et en une demi-journée. Et la même chose plus tard, lorsque il apprend qu'un de ses gouverneurs, ma foi, est en train de se mettre à dos toute la population de la ville où on l'a nommé, eh bien, il fait en sorte que ce gouverneur, on en découvre un beau matin le corps en plusieurs morceaux à côté d'un billot sur la place centrale. Comme ça, les gens de l'endroit comprennent que, eh bien, ma foi, César désavoue le gouverneur en question. Alors, Machiavel est subjugué devant une telle efficacité, et on pourrait multiplier les exemples. Quand César Borgia a fait assassiner à Senigallia les barons qui se sont discrètement ligués contre lui, il les fait étrangler dans la tour principale du château de Senigallia qu'on peut voir encore actuellement, hein, eh bien Machiavel est à quelques kilomètres de là et César Borgia trouve un malin plaisir à lui faire envoyer heure par heure un courrier pour le tenir au courant de la situation. Incroyable. Alors Machiavel, là, est vraiment en admiration devant une telle efficacité.
Jean-Yves Borio, un mot de la chute de la maison Borgia. Après Lucrèce, il reste qui finalement et comment cette maison disparaît?
Alors cette maison en fait ne disparaît pas totalement puisque vous savez que la malheureuse Lucrèce, elle est décédée de cela. D'ailleurs, on lui a infligé 8 grossesses de plus en plus pénibles. Et finalement, il y a eu une descendance italienne de la famille Borgia, mais qui s'est noyée, qui s'est confondue hein, dans la masse de la noblesse italienne.
Quand vous dites noyée, ils ne sont pas dans le Tibre.
Non, ils ne sont pas exceptionnellement pas dans le Tibre. Non. Et il y a également une descendance française, puisque César a épousé, vous le savez, Charlotte d'Albret. Et bon, ils se sont rencontrés très très peu souvent, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, ils ont quand même eu une descendance. Et il y a actuellement encore de lointains, très lointains descendants, ici, notamment en Poitou et au Limousin, César Borgia et de Charlotte.
En tout cas, Jean-Yves Borio, je renvoie à la lecture de votre livre qui est passionnant, Borgia, La pourpre et le sang aux éditions Perrin. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Certains férus d'histoire sont intarissables en matière de potins historiques, mais ce, uniquement hors antenne. Comme Stéphane, qui nous disait pendant la pub au sujet de je ne sais plus qui.
Il se faisait payer et il buvait beaucoup.
Clémentine Portier-Keltenbach, elle, a le courage de dire des vacheries au micro. Et aujourd'hui, Clémentine, à la demande express de Stéphane, vous nous entraînez carrément au bordel.
Mais
il y a plus de limite.
C'est tout à fait exact, c'est tout à fait
j'ai
vrai.
Rien demandé, moi,
j'avais proposé une chronique religion et spiritualité qui m'a été refusée.
Ah non.
Et Stéphane m'a dit, mais pas du tout.
On veut des putes, a dit Stéphane. Ce sont les mots de Stéphane Bern. Il faut quand même que les gens
m'arrêtent. Du réputation. Sexe. Voilà, c'est mon cahier des charges. Qu'est-ce que vous
voulez ? On verra où elle en est en juin.
Moi, je m'exécute. Et donc, en effet, aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, sous la Troisième République, lorsqu'on disait dans un programme officiel il y aura une visite au président du Sénat, c'était une visite dans une maison close, le Chabanais, fondée en 1878 par Madame Kelly. Alors, Madame Kelly, inutile de vous dire, c'est pas son nom, on l'appelle aussi Fatma, ça c'est sans doute ses employés, j'imagine, mais aussi Madame d'Harcourt. Alors, son vrai nom, Alexandrine Johannet. Et la maison close en question se trouve au 12 rue Chabanais, entre l'Opéra et le Palais Royal à Paris. Alors cet endroit devient le lieu de rendez-vous du monde politique et artistique. On y croise Toulouse-Lautrec, Maupassant, Anatole France. Et cette Madame Kelly, elle vous aurait plu Stéphane,
oui,
parce
je suis
que
sûr.
Elle a tenu les lieux dans pendant 22 ans et ça devait, elle m'aurait plu aussi d'ailleurs sans doute Alexandrine, parce qu'elle devait adorer l'histoire. Puisque dans son établissement, il y avait une trentaine de chambres à thème, dont la Pompéi, la médiévale, la chambre Louis XV ou directoire, la vénitienne dotée d'un lit en forme de coquille, la chambre de style japonais ou de style indien. C'est celle de style indien qui était la préférée d'Édouard VII, dont je vais vous parler à l'instant. Et au Chabanais, la décoration est tellement luxueuse, tellement soignée, que la chambre japonaise recevra un prix lors de l'exposition universelle de 1900. Certains décors ont été peints par Charles Taucher.
Décors D-E-C-O-R-S.
Oui, décors, exactement. Et oui. Charles Taucher, il œuvrera ensuite à Chenonceau.
Ah oui.
Alors du coup, cela dit, hein, c'est pas pour toutes les bourses, hein, si je puis me permettre.
Non,
je ne l'ai pas fait exprès. Je vous promets, je n'ai pas fait exprès. Je peux vous montrer mon texte. Je suis désolé, hein, chers auditeurs. Non, pas du tout. Les fêtards qui fréquentent le Chabanais doivent débourser au moins 2000 euros s'ils veulent y passer la nuit. Ce n'est pas pour tout le monde.
Ah oui.
Et le Chabanais emploie aussi des filles qui sont des sosies des grandes actrices de l'époque. Ça s'appelait. Mais en fait, ce qui fait la réputation du Chabanais, c'est avant tout la fréquentation de la maison par une clientèle très, très sélecte. Et évidemment, Stéphane, vous le connaissez par cœur, le client le plus connu, le plus assidu, c'est le prince de Galles qui deviendra le roi Édouard VII. Alors, officiellement, il loge à l'hôtel Bristol, mais il loue à l'année un petit salon particulier au Chabanais. Et alors, il a une salle de bain avec une baignoire en cuivre rouge en forme de cygne. Et il dispose sur tout ce fauteuil que, du coup, heureux Vénard, vous avez vu. Le fameux trône d'amour à étrier, la chaise de volupté.
Oui.
Alors, c'est un truc qui a été spécialement confectionné pour lui, et dont les mécanismes lui permettent de se livrer à des acrobaties érotiques sans trop se fatiguer. Et écoutez, essayez d'imaginer, c'est un meuble qui ressemble vaguement à un fauteuil d'accouchement. Bon, la comparaison n'est pas très flatteuse, mais enfin, en nettement plus luxueux et confortable, équipé d'étriers métalliques, hein, c'est pour ça que je faisais allusion à un fauteuil d'accouchement, d'accoudoirs verticaux, le tout superposé à une méridienne dotée de plaques pivotantes.
Mais ça permet de faire plusieurs positions.
Alors, ça permet plein de trucs, ça, c'est sûr. Ça, alors, surtout, le prince de Galles pesait à l'époque dans les 120 kilos.
Ah.
Et il avait le souffle court parce qu'il fumait 40 cigarettes et cigares par jour. Donc, il n'était pas vraiment en état de faire des galipettes élaborées. Il commanda donc ce fauteuil de volupté à un artisan français, Louis Soubrayer, artisan ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, qui a bien dû rigoler et a réalisé cette invraisemblable commande pour Édouard VII. Alors, la presse anglaise se fiche de lui parce que tout ça est notoire, naturellement. Alors, on l'appelle Dirty Bertie, Bertie le sale, ou Tom Tom, gros bide. Et la presse, d'ailleurs, n'hésite pas à lui servir du Shakespeare pour égratigner ses travers. Songe à diminuer ton ventre et grossir ton mérite. Cesse de baffrer et quitte ta vie dissolue. Vous avez reconnu, naturellement, là, une réplique de Falstaff. Alors, le prince sexagénaire cessera de fréquenter les lieux en 1901 quand il devient souverain du Royaume-Uni, empereur des Indes. Bon, là, ça l'afficherait mal d'aller au Chabanais. Son fauteuil de volupté et sa baignoire ont été vendus en 1951. La baignoire, elle est rachetée en 1972 par des admirateurs de Salvador Dali. qui lui en font cadeau pour qu'il puisse l'installer dans sa salle de bain à l'hôtel Meurice. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'un jour, la reine d'Espagne est venue à Paris et on s'est trompé dans son programme.
Oh non.
On a mis la visite au président du Sénat et du coup, la malheureuse, elle a été obligée d'aller rencontrer le président du Sénat. On ne sait pas celui des deux qui s'est le plus emmerdé. Mais en tout cas, vous savez que c'est en 1946 que la loi Marthe-Richard a interdit les maisons closes. Et un jour, passant après-guerre, devant le fameux One Two Two, 122 rue de Provence, une maison close fréquentée par Michel Simon, Rému et tant d'autres, le cinéaste Yves Mirand écrivit aussitôt à Doriane. Doriane, c'était une ancienne du Chabanais et elle a été la patronne du One Two Two. Yves Mirand lui écrit et lui dit « Cher Doriane, que c'est triste, tous ces volets ouverts. »
Oh man.
En tout cas, le prince de Galles, il a donné son nom à un costume. Le prince de Galles.
Et pas une position.
Et pas une position. Et puis, le fait qu'il y ait tellement d'embonpoint que quand on porte, je ne sais pas, vous n'en portez pas de costume trois pièces.
Non, ça m'arrive assez rarement.
Je parle évidemment de...
Oh oui, mais j'ai bien compris, Stéphane. Oui,
pantalon,
j'ai compris.
Veste et gilet. Eh bien, on ne ferme jamais le dernier bouton du gilet parce que le prince de Galles ne pouvait pas, le futur Édouard VII, ne pouvait pas fermer son dernier bouton.
Vous savez tellement de choses, oui, Stéphane.
Pas, ça, c'est des choses qui, honnêtement, ne servent à rien dans la vie.
Mais c'est dommage. Mais elles pourraient servir sur le quiz. Quel dommage qu'il n'ait pas encore commencé.
Oui, oui.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est un moment de l'émission qu'il aimerait voir disparaître.
Mais
notre
non,
quiz d'histoire
je
vous
suis
agace.
Bon joueur.
Non, ça vous agace, Stéphane, je non. sais. Sinon, si vous préférez, on peut aussi jouer à De quelle star parlait Stéphane Bern en off hier pendant la pub.
Il devait être très conne, en fait.
Non, mais je l'adorais.
Ça peut être drôle comme jeu, non? On peut donner la réponse. Vous préférez qu'on joue à ça ou pas?
On
va plutôt faire le quiz, c'est mieux pour votre réputation. Jouons à. Bern to be alive. Alors, Stéphane, question numéro 1, elle est pour vous. Vous affrontez, comme toujours, Clémentine Portier-Kaltenbach. Stéphane, vous connaissez tous la tombe de Victor Noir au Père Lachaise.
Oui.
On en a parlé ici même où ces dames sont invitées à se frotter sur ces statues pour combattre l'infertilité. Eh bien, au Brésil, la tombe de Marta Vieira da Silva, poétesse du début du XXe siècle dans la ville de Dos Raquios, invite les hommes à se frotter eux aussi à sa tombe, mais pour combattre les problèmes d'érection. Vrai ou faux ?
Je dirais vrai.
Vous aimez le Brésil ?
J'adore le Brésil.
Vous avez beaucoup d'acquaintances avec ce pays. Ouais, vous aimeriez avoir beaucoup d'acquaintances avec ce pays, visiblement. Et quelle est la réponse ? On écoute.
Vous avez perdu.
Ah non, c'est raté, c'est faux. Marta Vieira da Silva est une footballeuse brésilienne de 36 ans. Elle va très bien. Elle est considérée comme la meilleure joueuse de foot de tous les temps. Hein, vous avez bien suivi le foot féminin. Hein,
j'aime
bien
beaucoup le Brésil, mais le foot, c'est pas mon truc.
L'effet Coupe du Monde, on avait dit, et les femmes, on s'y intéresse aussi, visiblement, pas Stéphane.
Oh,
question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. The Old Man of Lonegan est un conte de fées anglais pour enfants, mais qui l'a écrit ? Shakespeare ? Le prince Charles ? Ou Victoria Beckham?
Je pense que c'est le prince Charles.
Oui, c'est ça.
Qui a ses heures perdues, écrit des contes pour enfants. Oui, mais je l'avais entendu.
Vous pensez
dire.
Que c'est ça, vous êtes sûr, vous validez cette réponse, c'est votre dernier mot, Clémentine. Eh bien, oui, c'est une bonne réponse. C'est le prince Charles. Il l'a publié il y a combien de temps, Stéphane?
Il y a très longtemps.
Oui, mais c'est-à-dire
dans les années 70 ou 80.
80. Il a 32 ans. C'est l'histoire d'un vieil homme qui vit dans une grotte. Il aurait inventé l'histoire pour divertir ses deux frères, si c'est pas mignon. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le 6 avril 1945 meurt Philippe Padebol, quelques mois avant la capitulation de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Son nom, forcément un peu humoristique, est passé à la postérité car il fit partie des 100 derniers soldats morts pour la France. Vrai ou faux ?
Non, c'est faux.
Padebol.
Philippe Padebol.
Non, bah... Alors franchement, si c'est vrai...
Si c'est vrai, vous renoncez à la présentation de Secret d'Histoire.
Je renonce à votre quiz.
C'est effectivement faux, Stéphane. On ne vous la fait pas, hein, décidément. Il est fort en histoire. Par contre, Augustin Trébuchon est officiellement le dernier soldat français mort durant la Première Guerre mondiale le 11 novembre à 10h55, 5 minutes
ça c'est triste.
Avant le cessez-le-feu.
Et le premier, c'était le caporal Peugeot qui a donné son nom à une ville, une rue qui n'est pas loin de
le premier.
Le premier mort de la guerre
le
de 14.
Premier mort. Très bien.
C'est comme Apollinaire qui meurt... deux jours avant l'armistice.
C'est tragique.
Peut-être aussi tragique que la question numéro 4 pour vous, Clémentine. Dans la Rome antique, Facinus était un dieu assez gênant car il était à la fois le dieu qui protégeait certains enfants, mais sa représentation était un phallus. Vrai ou faux ?
Oui, ce nom de dieu me dit quelque chose. Je l'ai vu récemment. comme vous me faites chercher strictement des trucs autour du sexe, il est tout à fait possible que je sois tombée dessus sans le vouloir. Donc je dirais oui.
Elle est tombée sans le vouloir sur le phallus de Facinus. Clémentine Portier-Kaltenbach, c'est une bonne réponse, c'est vrai.
Bravo.
Il était le préservateur des maléfices et gardien des enfants de l'empereur et l'incarnation du phallus divin. Les conducteurs de chars mettaient également des zigounettes en bronze sur leurs véhicules pour les protéger. Ça, vous ne le saviez pas. C'est la victoire de
gagné.
Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ça faisait longtemps. Merci
Stéphane. Un nouvel échec pour Stéphane Bern.
Une nouvelle victoire pour Clémentine.
Oui, on va le formuler comme ça, si ça peut moins blesser votre ego.
Vous cherchez vraiment à m'enfoncer.
Oui, c'est vrai. Je vous laisse responsable de cette phrase. Merci Stéphane et bravo Clémentine.
Sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, ce qui d'ailleurs serait dommage, car ça signifierait que vous avez loupé la première heure qui était dingue, n'est-ce pas Stéphane ?
Oui, presque aussi dingue que vous Mathieu. Et de ceux dont on parle aujourd'hui, car c'est une spéciale famille en or de l'histoire.
Oui Stéphane, des familles dysfonctionnelles, il y en a eu un paquet, certaines plus gratinées que d'autres.
Ma mère avait pour nom Gwendoline, elle est morte dévorée par les loups. Parce que notre père qui était parti pour boire à la taverne de Duchesneau a crevé, gelé dans les temps, à cause de son pied beau.
Vous nous avez raconté la sulfureuse saga des cruels Borgia, vous allez nous raconter l'histoire des Kennedy.
Et quant à vous Mathieu, vous nous parlerez d'une famille en or plus récente, et en or mais au sens propre cette fois.
Oui Stéphane, vu leur nombre de gosses, ils ont clairement droit à la carte avantage famille de la SNCF, mais ils l'utilisent assez peu, trouvant, je cite, que le jet c'est plus rapide et il y a moins de grèves. Je vous parle des Kardashians.
Et au programme de cette deuxième heure également Mathieu, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe, nous raconte l'histoire des cocktails au nom allemand, le Spritz, mais qui est en réalité italien. Enfin, je le crois.
Je crois que même ça, on n'en est pas sûr, en fait. Oui. Je crois que c'est d'une autre origine encore.
Et vous saurez pourquoi on dit « en voiture Simone ». Et oui, ça sera le mot de la fin.
Ah bah, c'est sûr que je comprends qu'après ça, vous n'ayez rien à ajouter.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse aux familles en or de l'histoire. Celle-ci est une des plus légendaires. Installez-vous confortablement, salez le pop-corn. Stéphane Bern nous raconte la saga mouvementée des Kennedy.
Historiquement Vôtre. Le récit.
C'est vrai que dans les lignées les plus célèbres et les plus glamour du XXe siècle, Mathieu, on pense tout de suite aux Kennedy. Et pourtant, peu de grandes familles ont connu pareille suite de drames. À croire que le clan Kennedy est tout simplement maudit. Sur le papier, ils sont pourtant l'incarnation même du rêve américain, avec ce côté famous, rich and beautiful, célèbre, riche et beau. Les Kennedy sont aussi puissants, très puissants. Un destin hors du commun pour cette famille d'immigrés catholiques irlandais, arrivée à Boston au XIXe siècle et devenue en deux générations seulement l'une des familles les plus en vue de la Nouvelle-Angleterre, puis de tout le pays. Celui qui incarne cette ambition, c'est Joseph Patrick, dit Joe Kennedy, le patriarche. Il y a cette vieille légende qui traîne sur la fortune de famille largement accrue sous son règne. Il y a eu pas mal de boursicotages, mais on raconte surtout que Joe se serait fait beaucoup, mais alors beaucoup d'argent, pendant la Prohibition, en se lançant dans le trafic d'alcool du côté des Grands Lacs. Rien de criminel n'a jamais été prouvé, mais de grands noms du crime organisé l'ont dit et répété, à commencer par Frank Costello, l'un des parrains les plus puissants de la mafia des années 30. Cela dit, on peut être riche à millions et vivre une série de drames comme on n'en souhaite à personne. Quand il meurt à 81 ans en 1969, Joe Kennedy a eu le temps de voir mourir trois de ses quatre fils.
Alors deux, je vois bien Stéphane, mais le troisième m'échappe.
Vous pensez forcément à JFK, John Fitzgerald Kennedy et à Bob Kennedy, Robert Kennedy. Mais la scoumoune qui frappe le clan a commencé bien avant leurs assassinats respectifs. Au départ, John n'était pas programmé pour être président. C'était son frère aîné, Joseph Kennedy Jr., qui incarnait les espoirs du clan. Mais Joseph s'est tué à 29 ans au-dessus de l'Angleterre dans l'explosion de son bombardier en 1944. Quand on transporte 11 tonnes d'explosifs, que voulez-vous Mathieu ? Si ça pète, ça pardonne pas.
J'ai assez bien l'image, oui Stéphane.
Ce n'est qu'après ce drame que Joe a reporté ses espoirs sur John, son deuxième fils. Mais voilà, le monde connaît la suite. JFK, 35e président des États-Unis, a eu le malheur de se promener en voiture décapotable dans les rues de Dallas le 22 novembre 1963 et il est assassiné par Lee Harvey Oswald.
Et ça fait deux ?
Ça va bientôt faire trois.
Après avoir failli quitter la vie politique à la mort de son frère, Robert Kennedy, le troisième fils de Joe, se lance dans la course à la Maison-Blanche en cherchant à obtenir en 1968 l'investiture démocrate. Mais tout s'arrête à l'hôtel Ambassador à Los Angeles. Un jeune serveur de l'hôtel, le Jordanien Shiran Shiran, lui tire dessus à bout portant. Joe Kennedy vient de perdre 3 de ses 4 fils. Il ne s'en remettra d'ailleurs pas et meurt l'année suivante, en 1969.
Une telle poisse, Stéphane, une telle skoumoune, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut parler de malédiction tout en camionnesque.
Et ça continue bien après, Mathieu. La famille Kennedy accumule les drames et les scandales, comme l'accident d'avion mortel de John John en 1999, à 38 ans seulement. Mais si John John, le fils de JFK, ce petit garçon, vous savez, qui avait 3 ans à l'époque, qu'on voit sur une photo célèbre faire un salut militaire devant le cercueil de son père. Si on résume, Joe Kennedy et sa femme Rose ont eu 9 enfants, dont 4 garçons. Sur les 4, 3 ont connu une mort violente avant d'avoir 50 ans. Mais l'épisode le plus horrible, celui qui en dit le plus long sur la personnalité ambiguë de Joe Kennedy, ne concerne pas l'un de ses fils, mais l'une de ses 5 filles, Rosemary. Et on touche là à des sommets de l'horreur.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Dans notre spécial Famille en or, on évoque cet après-midi les Kennedy. Alors, c'est bien beau, Stéphane, de faire des promesses, mais quand on promet des sommets d'horreur, c'est ce que vous avez dit, hein, Stéphane. Il faut assumer derrière.
J'assume tout, Mathieu.
Qu'est-ce qui va se passer pour les Kennedy ?
Mais avant d'évoquer Rosemary Kennedy, troisième enfant et première fille de Joe et Rose Fitzgerald Kennedy, il faut que je vous parle de lobotomie.
Vous avez des projets me concernant ?
Non, plus personne ne la pratique, heureusement, aujourd'hui. Mais figurez-vous que c'était naguère encore très à la mode d'enfoncer des pics à glace dans la tête des gens. Attention, pour les soigner.
Ah, bien sûr.
L'idée de la lobotomie, on la doit à un médecin portugais, le docteur Moniz. Et ça lui a d'ailleurs valu le prix Nobel en 1949.
Mais ça, Castelo López, ils nous en ont jamais parlé.
Jamais.
Hein. Ouais, étonnamment.
Son idée, c'est qu'on pouvait guérir des tas de choses comme la schizophrénie ou l'épilepsie en découpant des petits morceaux du lobe frontal des gens. Au milieu des années 30, des médecins ont perfectionné la technique de Moniz et dans les années 40 et 50, la lobotomie transorbitale était devenue relativement courante.
Qu'est-ce que vous entendez par transorbitale ?
Oh, ça c'est facile, Mathieu. Il suffit de taper un bon petit coup sec au coin de l'œil pour enfoncer une pointe d'acier à 7 cm de profondeur dans le crâne du patient, de tripatouiller un peu et paf, on passe au suivant. C'est simple comme bonjour.
Alors, en dehors du fait que vous avez manifestement comme objectif de concurrencer Christophe Ondelat sur un terrain qu'il a parfaitement balisé, je ne vois pas vraiment le rapport avec Rosemary Kennedy.
J'y viens, ne soyez pas impatient. Le hic, c'est qu'on s'est mis à lobotomiser des gens pour un oui, pour un non. Des personnes agitées, des insomniaques, des hystériques, des enfants. Le neurologue américain Walter Freeman, par exemple, en a réalisé plus de 4000 dans sa carrière. Et il se trouve que Rosemary Kennedy, au début des années 40, souffre de dépression et fait régulièrement de grosses crises de colère. Et ça, Joe Kennedy ne le supporte plus. En 1941, il contacte le docteur Freeman. Et voilà comment Rosemary Kennedy, qui est pourtant majeure, à 23 ans, subit une lobotomie sur les ordres de son père, convaincu d'agir pour le bien de sa fille. Mais le problème, voyez-vous, c'est quand on découpe le cerveau des gens, ça peut vite déraper.
Oh non, Stéphane.
Aussi. Rosemary survit à l'opération, mais elle en sort dans un état irréversible et catastrophique. Incontinente et avec le quotient intellectuel d'un enfant de 3 ans, et là où ça devient encore plus glauque, c'est qu'il ne fallait surtout pas gêner le storytelling familial au moment où les frères Kennedy se lançaient en politique. Alors ? On a tout simplement interné Rosemary Kennedy qui a disparu de l'équation et des photos de famille. Pendant que John et Bob commençaient leur ascension fulgurante, le clan Kennedy imposa l'idée que Rosemary était née dans cet état. Et franchement, Mathieu, je me demande si son destin n'est pas encore un peu plus horrible que celui des autres Kennedy.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et si les Kennedy étaient pires que les Borgia ? Au moins, les Borgia ne se lobotomisaient pas entre eux. Pour le savoir, on accueille André Caspi. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour André Caspi, vous êtes historien, professeur émérite à la Sorbonne et auteur notamment de John Kennedy, une famille, un président, un mythe qui sera réédité en novembre en format poche aux éditions de l'Archipel. Le drame de Rosemary Kennedy a pendant très longtemps été tenu secret par la famille elle-même. On peut dire au fond que c'est le plus gros tabou de la famille Kennedy. Et pourquoi selon vous ?
Bah, écoutez, d'une part, il y a eu l'échec de cette opération, et d'autre part, il y avait cette volonté de montrer une famille pleine de vigueur, pleine de dynamisme, une famille qui réussit et qui a tout ce qu'il faut pour occuper le premier rang dans la démocratie américaine. Donc Rosemary, c'était un peu le contrepoids, c'était le côté sombre, et ce côté sombre, il fallait l'éliminer. C'est la raison pour laquelle Rosemary a été recluse jusqu'à la fin de sa vie, ignorée, et qu'elle a fini, en somme, tragiquement, je ne dis pas la moitié, je dirais les trois quarts même de son existence.
Alors, à l'exception de cette terrible histoire de Rosemary, toute la vie des Kennedy a toujours été extrêmement exposée. On dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Finalement, les Kennedy ont été trop exposés, c'est ça qui les a perdus?
C'est-à-dire que le père Kennedy, Joseph Kennedy, avait beaucoup d'ambition pour lui-même. C'est pour ça que quand il a été nommé ambassadeur des États-Unis à Londres en 1938, il considérait que c'était le summum de la réussite. Et il voulait que ses enfants poursuivent ce chemin. Et il avait donc imaginé que l'aîné de ses fils, Joseph Kennedy Jr., serait l'emblème, pourrait-on dire, de la famille, et qu'il pourrait briguer la présidence des États-Unis. Mais, et vous l'avez très bien rappelé, ce jeune homme est mort aux commandes de son avion, juste au-dessus d'ailleurs du territoire français, en 1944. Donc ça voulait dire que là, il y avait un échec, mais un échec glorieux de la part de la famille Kennedy. Alors si Joe ne pouvait pas occuper cette place, ce serait John. Et John Kennedy, celui qui est devenu président des États-Unis, John Kennedy a fait une très belle guerre, comme on dit. C'est-à-dire qu'il était engagé dans la marine, il se trouvait dans le Pacifique Sud. Et ça permet, en somme, à John Kennedy de devenir un héros à partir de 1945.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Paraît qu'on ne choisit pas sa famille. Lui, en revanche, on l'a choisi pour nous éclairer sur la vie un poil compliquée du clan Kennedy. L'historien André Caspi est avec nous cet après-midi. Alors, Stéphane l'a évoqué dans le récit, les Kennedy sont des immigrants irlandais installés à Boston. Et leur ascension est fulgurante. Elle se fait en à peine deux générations. Comment on peut expliquer, parce que je veux bien que le patriarche était convaincu qu'ils étaient appelés à un grand destin, mais enfin, entre avoir l'idée et le concrétiser, c'est quand même assez dingue. Cette histoire de lien avec la mafia, de business pendant la Prohibition, tout ça, c'est avéré?
Écoutez, là vous êtes en train de parler d'événements qui sont très différents les uns des autres. D'abord, il y a l'intégration des Irlandais dans la société américaine. C'est une intégration difficile parce que les Irlandais ont un gros désavantage lorsqu'ils s'installent en Nouvelle-Angleterre. Ils sont catholiques dans une région qui est éminemment protestante. Ajoutez à cela que beaucoup d'Irlandais trouvent la possibilité de s'élever dans la société par l'intermédiaire de la politique. Et la politique locale, c'est lorsque l'on tient un bistrot. Alors, on ne dit pas un bistrot aux États-Unis, bien sûr, mais c'est que lorsqu'on tient une sorte de café dans lequel se réunissent ceux qui ont envie de boire, ça va de soi, mais aussi ceux qui font de la politique. C'est un lieu réservé aux hommes. Et c'est là que les Kennedy, il s'agit bien sûr dans ce cas-là des ancêtres de John, c'est là que les Kennedy ont fait leur ascension. Alors quant au père de John, c'est-à-dire Joseph Kennedy, lui, c'est le fils qui fait des études, c'est le fils qui devient banquier, c'est le fils qui s'enrichit. Et au temps de la Prohibition, c'est entre 1918 et 1934. Donc à ce moment-là, Joseph Kennedy a une idée géniale, c'est-à-dire que quand il sent que peu à peu la prohibition va disparaître, c'est-à-dire fin des années 20, début des années 30, il noue un contrat avec une firme anglaise pour avoir le monopole du whisky aux États-Unis lorsque la prohibition sera terminée. C'est un très grand homme d'affaires et cet homme d'affaires a aussi des ambitions politiques. Donc vous voyez, c'est un peu, si vous voulez, la promotion sociale depuis les grands-parents ou les arrière-grands-parents qui sont des immigrants pauvres et qui s'intègrent difficilement jusqu'au moment où lui, Joseph Kennedy, parvient quasiment au sommet de la société américaine.
André Caspi, pour terminer, au tout début du mois, Joseph Kennedy III, petit-neveu de John Fitzgerald Kennedy, qui a 39 ans, a perdu à la primaire démocrate pour un poste de sénateur dans le Massachusetts. Est-ce que c'est la fin de la dynastie politique, en tout cas, des Kennedy?
Bah, écoutez, oui, il me semble. C'est ce que ça veut dire surtout, c'est que ça n'est pas le nom de Kennedy qui permet d'être élu. Voilà.
Alors, c'est fini,
peut-être,
ça.
Peut-être plus tard, y aura-t-il un Kennedy qui réussira à se faire élire. Mais disons que pour l'instant, dans le Massachusetts, c'est pas parce que vous vous appelez Kennedy qu'automatiquement les gens vont voter pour vous. Voilà.
En tout cas, mais bravo et merci André Caspi. Je rappelle le titre de votre livre, John Kennedy, une famille, un président, un mythe, qui sera réédité en novembre aux éditions L'Archipel. Et puis Mathieu, vous savez, c'est comme en Inde, hein. C'est pas parce que vous appelez Gandhi que vous faites élire.
Ah
hein.
Oui, c'est vrai, ah que oui, ça marche
là
aussi.
Ça, enfin,
ça marche plus.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous aimez les Borgia ? Vous avez adoré les Kennedy ? Notre troisième famille, plus contemporaine mais tout aussi dysfonctionnelle, devrait vous plaire. Mathieu, aujourd'hui, dans 99% vrai, vous nous parlez de la famille Kardashian.
Oui Stéphane, si jamais vous êtes parti de ces gens qui rêvaient d'avoir une grande famille, de vieillir entouré d'enfants et de petits-enfants dont vous seriez fier, eh bien une fois que vous aurez brossé le portrait des Kardashian, vous n'aurez plus qu'un rêve, la vasectomie. On connaît tous les vertus cathartiques des tragédies de Sophocle, voir sur scène, sur la scène du théâtre, des enfants zigouiller leurs parents, des fils coucher avec leur mère et des mères crever les yeux de leurs fils, permettait aux spectateurs de vivre par procuration des émotions interdites en société et préserver ainsi l'équilibre du vivre ensemble. Eh bien, en termes de catharsis, la famille Kardashian, c'est Sophocle puissance 10. Divorce, meurtre, O.J. Simpson, transgenrisme, divorce, sextape, divorce, entreprise de gloss à lèvres, braquage, divorce, botox, mère porteuse et surtout une valse de cocu.
Et puis t'es cocu, je t'en demande.
Voilà en quelques mots les ingrédients de l'émission de télé-réalité qui a passionné l'Amérique pendant 19 saisons d'affilée. La dernière sera diffusée en 2021. Les Kardashians, c'est donc les aventures conjugales, extra-conjugales, extraordinaires, extraordinairement extra-conjugales d'une flopée de mioches, tous plus barrés les uns que les autres. Chacun ayant une couleur de folie spécifique. Les Kardashians, c'est les Barbapapa qui auraient pris de l'acide. C'est les Barbapachians. Au pays des Barbapachians, il y a d'abord Robert Kardashian et Kris Jenner. Ils se sont mariés, eurent 4 enfants, Kourtney avec un K qui mange des graines de chia, Kim avec un K qui épouse Kanye West, créatrice d'une gamme de gaines amincissantes et adepte du sexe filmé en amateur, Chloé avec un K soupçonnée d'être la fille illégitime d'un plan cul clandestin de la mère, enfin Robert Junior, parce que les parents avaient plus envie de se faire chier à trouver un prénom. Pour l'instant, est-ce que vous suivez Stéphane ? Ça vous change des bourbons, tous ces K ?
Ah oui, c'est beaucoup plus dégénéré chez vous.
C'est
là.
Complètement dégénéré. Alors, Robert Kardashian père est un grand avocat californien d'origine arménienne. Il aime Chris, sa femme. Chris l'aime, tout le monde est heureux. Puis, pam, Chris rencontre un prof de tennis ayant un peu forcé sur l'autobronzant, avec qui elle trompe son Robert. Pendant ce temps, O.J. Simpson est soupçonné d'avoir buté sa femme. L'affaire passionne les États-Unis. Robert Kardashian devient son avocat parce que c'est son pote de longue date et qu'il lui fait un prix sur les honneaux. La famille commence à avoir sa petite notoriété, mais ce n'est pas assez. Les Kardashians en veulent plus. I want more, dira Kim en légende d'un selfie Instagram figurant son popotin calipige. Or, devinez qui elle rencontre.
Le pape.
Non, Paris Hilton.
Non.
Je vais prendre une voix différente. Elle va lui faire bénéficier de son savoir-faire médiatique. Étrangement, quelques semaines plus tard, Kim tourne dans une sextape avec son petit copain. Film qui ne devait jamais sortir aux yeux du public. Mais patatras, la sale affaire, elle fuite. Oh là là, c'est dommage et embarrassant. Coup de bol, la mère de Kim réussit à vendre les droits du très moyen métrage pour plusieurs millions de dollars à un diffuseur avant de lancer juste derrière une télé-réalité familiale surfant sur ce triste événement. Bien ouais, les Kardashians. En 2007 est donc lancée la première saison de l'incroyable famille Kardashian. Et si leurs aventures ont tant passionné les téléspectateurs, c'est que, comparé à ce qui se passe dans leur famille, ce qui se passe dans les feux de l'amour est simple. Chris, la maman, qui est la tête pensante de cette entreprise familiale, a donc quitté son prof de tennis pour se marier avec un champion olympique de décathlon, Bruce Jenner. Bruce aime les hélicoptères télécommandés et se balader en pantoufles. Ce qu'on sait moins, c'est que dans l'intimité de son dressing en cachette, il aime aussi porter les robes de sa femme. Plusieurs années plus tard, il changera de sexe, deviendra le porte-parole du transgenrisme dans le monde et se fera appeler Caitlyn. Ça, c'est fait. Il a avec Chris, la maman, deux filles, Kendall, qui aime les chevaux, la soupe à la tomate et la nature, et Kylie. Kylie est myope des deux yeux, aime les tacos et créera une entreprise de rouge à lèvres pulpant qui fera d'elle en 2019, selon le magazine Forbes, la plus jeune milliardaire de l'histoire. Kourtney avec un K, vous vous souvenez ?
Oui, l'aîné. Exactement. Les premiers enfants de Robert et de Chris.
Elle a eu 3 enfants avec un homme qui s'est avéré être infidèle, préférant la cocaïne et les tests de jacuzzi en compagnie de playmates à la frontière mexicaine, aux après-midi de rencontres par un prof de l'école Montessori. Résultat, ils se séparent. Alors non, en fait, la séparation post-pute chez les Kardashians, c'est pas un coup de tonnerre, c'est la norme. Hein. On fait pas une série sur des gens qui restent ensemble. Chloé, avec un K, dont on ne sait toujours pas si elle est la vraie fille de ce bon Robert, épouse un joueur de NBA 9 jours après l'avoir rencontré. D'après vous, comment ça se passe ?
Bah, elle est allée assez vite, quoi.
Voilà, le mariage ne tient pas. Son basketteur s'est enfégolé en pleine séance de renforcement musculaire avec quelques amis dans une chambre d'hôtel payée à l'heure. Ils se séparent aussi. Puis, la vie est bien faite. Elle retrouve l'amour dans les bras d'un autre basketteur de la NBA. Chloé tombe enceinte. C'est merveilleux. C'est bien la preuve qu'après la pluie, il y a le beau temps et que l'amour est plus fort. 7 mois. Car au drame, à 7 mois de grossesse, elle réalise que son nouveau mari préfère tester la résistance de la nouvelle gamme Manix que de l'accompagner au cours de préparation à l'accouchement. Ils se séparent eux aussi. Même trajectoire sentimentale pour Robert Jr. qui s'entiche d'une certaine Black China. Ils font un enfant mais se séparent quelques semaines après l'accouchement. Seulement, voilà, Robert lui était un sentimental. Il va sombrer dans la boulimie pour atteindre le chiffre déroutant, même pour Olivier Pouls, de 43 kebabs par jour. S'estimant trop joufflu pour passer à l'écran, il sortira de la série. Et maintenant Stéphane, je vous laisse deviner l'identité de la plus médiatique des Kardashian. Vu son CV, si on veut pas y passer la nuit, je dois vous la présenter à la Julien Lepers. Top ! Un temps en couple avec le neveu de Michael Jackson, membre des 3T, j'épouse ensuite à Las Vegas sous ecstasy un producteur dont je divorce quelques semaines plus tard pour me fiancer un joueur de foot américain qui, dès que j'ai le dos tourné, envoie des dick pics à toutes les call girls du Missouri et dont je divorce logiquement pour épouser comme ma sœur parce que ça avait bien marché pour elle un joueur de la NBA portant le même nom que ma mère, dont je divorce après seulement 62 jours pour me jeter dans les bras du rappeur Kanye West. Côté business, je vante les mérites des sandwichs Subway comme Stéphane Bern vante les mérites des vérandas à Kenna, sauf que moi c'est mieux payé. Je suis
Kim Kardashian
en effet. Voilà donc à vous tous qui trouvez votre famille foireuse. À vous tous qui le dimanche ne supportez plus d'entendre le rire graveleux et aviné de ce tonton qui tient de plus en plus mal l'alcool.
Alors.
N'oubliez pas, il y a pire, il y a les Kardashians.
Merci beaucoup Mathieu. C'était 99% vrai.
99,9% vrai aujourd'hui.
Ah oui, il y a donc 0,1%.
Moins
de 1% faux.
Ce qui était faux, c'est que Kim Kardashian a bien fait une campagne de pub pour les sandwichs Subway, mais en revanche, c'était pas moins bien payé qu'à Kenna.
Mais c'est pas moi, Kenna.
Je vous ai vu.
Moi.
Comment ça, les Vérandas, c'était vous.
Non, mais il y a très longtemps.
Oui, mais je vous ai vu, mais c'était le même tarif à peu près.
Non, ah, mais non,
c'était 6 millions de dollars, à mon avis.
Mais non, arrêtez. Non, ça, c'est très faux, ça. En fait, tout était vrai.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand sa silhouette svelte et gracile se dessine dans l'embrasure de la porte du studio Coluche, on sait qu'on va vivre un grand moment détox. Chaque jour, non content de nous donner une recette sans plafond calorique, Olivier Pouls nous raconte l'origine d'une recette. Aujourd'hui, Olivier, vous avez faim ou vous avez soif? Je ne sais pas ce qui est pire d'ailleurs.
Les deux, en général. Mais regardez, on approche furieusement de l'heure de l'apéritif.
On approche, avec modération, mais on approche.
Oui, on n'est pas obligé de se torcher. Hein. On peut y aller gentiment.
Alors je vous emmène
dans une ambiance quand même détendue. Écoutez, les amis.
On est ça c'est François en Grèce chez Stéphane.
Non, c'est l'Italie, c'est une tarentelle.
Serions à Venise, là tous les trois.
Qu'est-ce qu'on foudrait à Venise tous les trois?
On prendrait l'apéro.
Franchement, si j'ai un week-end, je vous adore, hein, mais un week-end à Venise, c'est pas vous que j'emmène.
C'est un peu déprimant, Venise, en fait.
Ah ben, en amoureux, non, Stéphane.
C'est peut-être pour ça qu'il vous faut force spritz pour égayer votre séjour vénitien.
Donc le spritz, c'est italien.
Alors, il est né à Venise, mais pas des Italiens, parce qu'au 19e siècle, ce sont les Autrichiens qui occupent la ville.
Ah donc on dit bien Spritz.
Eh oui, Spritz.
Et non pas Spritz.
Les Autrichiens qui avaient un petit doute sur la qualité des vins locaux, voyez-vous, ils ne trouvaient pas tout
c'est
ça.
C'est sûr que les Autrichiens sont très connus pour leur vin.
On en fait quelques-uns quand même en Autriche, et ils ont beaucoup progressé.
Ah bon.
Mais je pense quand même que les grands vins italiens sont supérieurs. Mais les Autrichiens donc n'aimaient pas ces vins italiens, et ils avaient l'habitude de les allonger avec de l'eau gazeuse, les malheureux. Et donc qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, il faut spritzen. Spritzen qui veut dire asperger en allemand. Et donc, ils aspergeaient leur vin italien avec de l'eau gazeuse. Ça, c'est l'origine du spritz. Mais la recette va évoluer, évoluer, puisqu'aujourd'hui, c'est plus du vin qu'on rallonge avec de l'eau. Mais non, parce qu'au XXe siècle arrive l'apérol. C'est un alcool qui est composé d'orange amère, de gentiane, de rhubarbe. Une recette un peu secrète, avec un côté amer, évidemment, un petit peu sucré aussi. Et on va donc mélanger cet apérol qui va remplacer le vin avec de l'eau gazeuse. Et on va aussi rajouter le fameux Prosecco. Mmh. Le Prosecco qui lui est un...
Un vin pétillant.
Un vin pétillant italien, produit dans la région de Venise. Et donc voilà, c'est la naissance
en fait,
de ce cocktail.
Du Prosecco.
Oui. De l'apérol ou du Campari. Les deux fonctionnent. Le Campari
c'est
est encore un
tiers,
peu plus
un tiers,
amer.
Un tiers, c'est ça.
Alors, c'est plutôt un tiers d'apérol, deux tiers de prosecco et puis hop, une petite rasade d'eau,
d'eau pétillante. Oui, pas trop d'eau gazeuse, Stéphane, non, avec les spritz d'Olivier, les spritz d'Olivier Pouls.
Et on met un peu d'orange.
Et on met une petite rondelle, d'orange. Amer de préférence, parce que ça donne un petit goût. Et voilà, ça c'est le cocktail tel qu'on le boit aujourd'hui à Venise et dans le monde entier, parce qu'il ne vous a pas échappé.
Mais il y a eu,
une mode incroyable du spritz.
Il y a une mode, parce que pour faire l'histoire, c'est pas en ligne droite depuis le 19e siècle, il n'y a pas eu un changement de recette, on n'a pas toujours bu du spritz, il y a un moment c'était complètement oublié.
Il y a eu une mode qui date d'il y a une petite dizaine d'années, elle tient essentiellement à une énorme campagne de communication d'Aperol, donc la marque, c'est une marque évidemment aujourd'hui. Qui a d'ailleurs été racheté par Campari et qui a relancé ça à coût de millions de dollars dans le monde entier.
Ça a bien marché.
Et ça a d'ailleurs tiré énormément aussi la production du Prosecco, qui est aujourd'hui le vin mousseux le plus produit dans le monde. Attention, ce n'est pas de la méthode champenoise, c'est pas la même
Oula,
chose.
Oula, malheureux, non.
Ah non. Ah. D'ailleurs, il ne faudrait pas mettre du champagne dans le spritz, il ne faut pas déconner
quand
même.
Ça existe, les spritz au champagne.
C'est un simple vin mousseux, c'est-à-dire que c'est un vin dans lequel, qui est fait en cuve close et qui n'a pas la double fermentation comme on fait avec les grands vins de champagne.
Merci beaucoup.
Quelques antipastes avec tout ça, peut-être, les amis.
Oui,
et encore un petit coup de musique.
Ça fait toujours du bien.
Encore une petite tarentelle. Oh oui. Oh,
on est beaux, là, tous les trois.
Dansons la tarentelle à Venise.
Et écartez-moi les pigeons, on n'a même pas trop ça.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
La France a peur. Après un spritz, lui qui ne boit de venir que du péri-rondelle, Stéphane Bern sera-t-il en mesure de délivrer sans bavure son mot de la fin ? Stéphane, la France a peur, mais elle croit en vous.
Elle a raison. Mathieu, parfois, quand je vous regarde, jeune, talentueux, fougueux, vous me faites penser à James Dean. Et coïncidence oblige, ça fait 65 ans, jour pour jour, qu'il nous a quittés.
Oh non.
En hommage à sa beauté éternelle due à son charisme, à sa disparition soudaine dans un accident de voiture, j'ai cherché une expression automobile. Ah bon, il y avait appuyer sur le champignon, conduire comme un pied, partir sur les chapeaux de roue.
Ouais, vous avez choisi laquelle alors ?
Une autre. En voiture Simone. Tout en sachant que dans son intégralité, l'expression en question est « En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne ».
Ça, c'est un truc érotique, non ? On en avait parlé dans un quiz. Simone, c'était en fait une pionnière dans l'automobile, c'est ça ?
Exactement, Mathieu. Simone Louise de Pinet de Borde des Forêts. Je voulais revenir sur son destin incroyable. Elle est en effet l'une des premières femmes en France à avoir passé son permis de conduire. Elle le décroche en 1929, à 19 ans. Et dès l'année suivante, elle participe à des courses automobiles, notamment avec sa maman en guise de copilote. On a longtemps cru que cette formule venait de Guy Lux. Oui, parce qu'il brocardait régulièrement dans les émissions l'aimable Simone Garnier en lui lançant « En voiture, Simone !» laissant croire lui-même qu'il était à l'origine de cette expression.
Mais point du tout.
Simone a une vie bien remplie. Elle a, durant sa carrière, battu 24 records du monde en course pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a même conduit un camion de la Croix-Rouge. Elle est la première femme aussi à ouvrir une auto-école. Elle s'est mariée à 63 ans et nous a quittés en 2004 à 94 ans. Aujourd'hui, je ne voulais pas dire en voiture, Simone, mais chapeau, Simone.
Vous conduisez, vous, Stéphane ?
Oui, absolument.
Vous avez tous vos points sur votre permis ?
Écoutez, on ne m'a pas envoyé de lettre.
Vous avez 12 points sur votre permis ?
Je ne sais pas, parce que
depuis
parfois...
Depuis le temps que vous devez conduire ?
Le temps que ça m'arrive, le courrier, etc., je ne sais pas.
Mais oui, c'est ça.
Je dois en avoir à peu près 8.
8 points ? C'est quand même pas mal.
Oui.
Historiquement vôtre, c'est bientôt terminé. L'heure d'ouvrir l'album souvenir de ce 28e numéro consacré aux familles en or de l'histoire. Stéphane, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cet après-midi parmi ces familles un peu folles dingues ?
Écoutez, honnêtement, je suis traumatisé par l'histoire de la lobotomie de Rosemary Kennedy.
C'est invraisemblable, cette histoire.
Oui, vraiment. Et vous savez, on essaye aussi de transformer quand par exemple des jeunes ont des sexualités différentes aux États-Unis, on continue à vouloir procéder de la sorte pour
vous
les faire
dire
entrer
en 2020
dans... En 2020, oui.
Ça continue.
Oui, il y a eu des reportages régulièrement.
Mais pas avec de la lobotomie quand même, Stéphane.
Avec des médicaments, par la chimie.
Des camisoles chimiques, oui.
Oui, comme terrible. Si on pouvait changer. La vie des gens, vous voyez, c'est dramatique.
On fera une autre émission là-dessus, mais comment la rendre funky, je ne sais pas. On cherchera un thème et probablement on le trouvera.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, c'est fini pour aujourd'hui. Les horreurs de Borgia, la lobotomie forcée de Rosemary Kennedy n'ont plus aucun secret pour vous. Mathieu, ça vous a choqué, hein, la violence qui s'exerce dans certaines familles.
Non, je dirais que ça m'a donné des idées.
Bien. Eh ben, moi, je vais plutôt vous donner le programme de demain, alors. Dès 16h, on réunit trois personnalités qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ont un point commun, celui d'avoir dit non.
Ah oui ?
Victor Hugo, qui a dit non à la peine de mort. Rosa Parks, qui a dit non quand on lui a demandé de laisser sa place dans un bus.
Et Diams, qui a dit non aussi. Non, non, même. Non, non. Ça vous parle, ça, Stéphane ?
Ah oui, c'est la boulette.
Mais c'est la boulette, bien sûr.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.